Et tout de suite, la matinale continue avec vous, Ludo Fren.
Où en sont les travaux de la CRR, la Commission reconnaissance et réparation, mise en place en novembre 2021 dans le sillage du rapport de la CIAS sur les abus sexuels dans l'Église? La CRR est l'une des deux instances de réparation désignées par l'Église, avec l'INIR, l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation. Donc, ce sont deux instances qui répondent en fait à deux objets différents pour une cause unique, qui est l'indemnisation, ou plutôt la réparation. Et il y a plus qu'une nuance entre les deux termes. Antoine Garapon préside donc la commission reconnaissance et réparation. Il est avec nous pour en parler. Et précisément, la CRR est chargée d'indemniser les victimes de violences sexuelles dans les congrégations religieuses. Il est essayiste, magistrat, homme de radio également. Esprit de justice, le mercredi à 21h, si vous écoutez France Culture. Et puis avant Noël, donc la CRR avait fourni un premier bilan. Et ce, en début d'année, donc on s'était dit que ce serait bien que nous en sachions davantage. Le rapport Sauvé estimait à 216 000 le nombre de personnes de plus de 18 ans agressées pendant leur minorité par des religieux catholiques de 50 à 2020. On parlait donc de tsunami, d'onde de choc, et tous les mots étaient à l'avenant des mots. Et donc ces institutions, ou plutôt ces instances, sont là aussi comme des miroirs d'une situation que nous suivons habituellement sur notre antenne. Bonjour Antoine Garapon.
Bonjour.
Alors, où en est-on précisément? Vous communiquez aujourd'hui sur des chiffres très précis?
Oui, ben on a près de 650 demandes, dossiers qui nous sont parvenus. On en a réglé à peu près 150.
Réglé, ça veut dire?
Réglé, c'est-à-dire que le processus est achevé pour nous. Dans le sens où il y a eu une audition, des auditions, à vrai dire, une prise en charge, et puis ensuite une évaluation, et nous nous réunissons à la fin avec les commissaires qui ont pris en charge la situation, et puis d'autres, de façon à délibérer, un peu comme des juges, si vous voulez, sur la, pour faire une recommandation de juste réparation.
Les commissaires?
Les commissaires, ce sont des gens qui ont la particularité d'être des bons professionnels, d'horizons très divers, de n'être ni religieux ni victimes, et donc de venir aussi d'horizons du droit. Il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a des thérapeutes, c'est des gens qui sont, le critère c'est leur professionnalisme, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et la première les premiers mois d'existence, quasiment une année, ont été consacrés à mettre en point des instruments pour pouvoir travailler, parce qu'en fait ce qu'on fait relativement nouveau, très nouveau même. Il s'agit de pratiquer la justice restaurative, comme on veut, et de le faire sur une échelle importante, sur des centaines de dossiers, pour des victimes qui ont subi des faits extrêmement graves, il y a très longtemps. Et donc pour lesquels la justice civile, la justice étatique ne peut plus rien faire parce que les faits sont prescrits, parce qu'ils sont très difficiles à établir de point de vue judiciaire. Comment est-ce qu'on va pouvoir établir les faits de ce qui s'est passé dans un confessionnal dans les années 70? C'est absolument impossible. Alors donc nous on se base sur la vraisemblance des faits. Et puis notre méthode consiste, alors ce qui prend du temps mais ce qui s'avère payant selon nous, c'est qui consiste à construire une relation de confiance avec les victimes et avec les congrégations, de façon à ce que on pense que la confiance va être la garantie que les choses se passent bien, qu'elles soient exécutées, parce que finalement la commission elle prend des recommandations, les congrégations sont pas obligées, si vous voulez, de les suivre. Voilà, donc c'est-à-dire
recommandations,
c'est-à-dire que on dit qu'une juste réparation consisterait la juste réparation, elle a deux directions. Une direction financière et une direction non financière. C'est-à-dire qu'on pense que financièrement, dans la grille qu'on a établie, ça serait la somme de 20, 30 000. La moyenne de tout ce qu'on a décidé jusqu'ici, près de 140, 150 dossiers, ça change tous les jours, c'est de 37 000 euros par victime. Donc, c'est une recommandation. Alors, elle est suivie dans l'immense majorité des cas, et puis il y a des congrégations qui résistent, qui ne sont pas d'accord.
Et qui disent non, c'est trop?
Qui disent non, nous, c'est nous qui décidons. Voilà.
Et on ne sait pas du coup ce qui...
Non. Non, il y en a une, à vrai dire, il n'y en a qu'une qui a adopté cette attitude hostile à notre égard.
Mais il n'y a pas de pouvoir contraignant, en tout cas, de la CRR.
Aucun. Mais c'est le principe de la justice restaurative. On n'a aucun pouvoir contraignant. C'est un peu pompeux, on se considère comme un tiers de justice, mais qui dépend de l'accord, bien sûr, des congrégations et des victimes. C'est ça qui est essentiel.
Vous, Antoine Garapon, spécialiste du droit magistrat, dans d'autres pays, la solution, ou du moins la procédure, a été intégrée dans un cadre judiciaire. Chez nous, c'est extrajudiciaire.
Non, ça a toujours été dans un cadre extra. C'est ça.
Y compris aux États-Unis.
Alors, aux États-Unis, c'est différent parce que la common law, le droit américain, ne connaît pas la prescription. Donc, c'est une grande caractéristique, une grande différence avec nous. Pas de prescription. Donc, on peut toujours faire une action. Et aux États-Unis, c'est une société dans laquelle l'argent est un régulateur. Et donc, les victimes demandent des sommes qui peuvent être extrêmement importantes, d'autant plus importantes que dans la réparation, il y a ces dimensions punitives. En anglais, on dit punitive damages, les dommages et intérêts punitifs. Oui. Ça veut dire que, en fait, très souvent, oui, ça arrive que les diocèses sont simplement mis en faillite et après on est sur chapter 11, on est sur une autre perspective qui est de distribuer tout l'argent qui a été saisi et qui était épuisé.
Donc la clause des faillites classique, en fait.
Clause des faillites classique, mais nous, c'est pas le but.
Oui.
C'est pas le but de mettre les congrégations en faillite.
Il n'y a aucune espèce de correspondance, en fait, entre le cas américain et le cas français.
Aucune, parce que les sociétés sont différentes, parce que les droits sont différents et...
Oui, mais les actes ne le sont pas forcément.
Les actes ne sont pas différents. Et puis, il y a eu aussi une affaire qui a fait grand bruit aux États-Unis, qui nous inspirait, parce qu'on est en contact avec les avocats américains. On a travaillé avec eux, surtout au début, pour voir comment ils s'y étaient pris, pour les Boy Scouts of America, les scouts américains. Alors, eux, ils ont eu des affaires qui sont très similaires aux nôtres, vu que c'est des atteintes sur des mineurs, et il y a fort longtemps. Et donc, on a vu qu'il y avait deux solutions. Il y avait deux pistes, deux orientations. La première, ça aurait été de chercher ce que font les tribunaux civils, c'est-à-dire de chercher une indemnisation. Et vous êtes repris d'ailleurs.
Oui.
Une indemnisation, ça veut dire que vous avez présenté les factures et puis on va tenter d'évaluer les conséquences du préjudice. Et cette indemnisation, elle n'est pas possible parce que les faits sont trop lointains, ils sont prescrits. Elle n'est pas possible parce qu'on n'a pas les instruments. Moi, j'ai été juge professionnel et je suis aujourd'hui à la CRR. On n'a pas les instruments. On ne va pas demander d'ordonner des enquêtes. On ne va pas nommer un expert. On n'a pas tous les instruments du droit. Et c'est tant mieux. C'est notre... Donc, si vous voulez, c'est une voie qui est obérée par les faits et obérée par notre impuissance juridique. Donc, l'autre voie, c'est la réparation. C'est complètement différent, la réparation. Et cette distinction existe en droit, d'ailleurs, en droit français. La réparation, c'est on ne considère que la souffrance et les atteintes à la dignité. Et le but de la réparation, c'est moins de chercher à restaurer l'état antérieur des choses, ce qui est absurde. Comment on va restaurer un enfant qui a été violé à 9 ans et qui en a 57 aujourd'hui? Non, l'argent de la réparation, c'est un argent qui est destiné à signifier deux choses. Tout d'abord, l'importance et la gravité de ce qui a été fait à cet enfant, qui est toujours en soi pour la victime. Et deuxièmement, c'est de la relancer dans la vie. De l'aider à l'âge qu'elle a, pour le temps qui lui reste à vivre, de pouvoir... Alors, tourner la page, ça veut rien dire, parce qu'on tourne jamais la page.
Oui.
Mais ça veut dire surmonter cette chose épouvantable qu'elle a vécue étant enfant.
Est-ce que vous diriez, Antoine Garapon, que Le système américain est plus du côté des victimes et le système français plus du côté des institutions.
Non, du côté du système américain, il est du côté de la, j'allais dire du côté de l'argent, c'est-à-dire qu'il règle tout par l'argent, mais on ne prend pas en considération les victimes. C'est vrai du procès américain d'ailleurs. Si quand on juge un crime aux États-Unis, la victime n'est pas là. La victime n'est pas là, et puis tardivement, il y a une vingtaine d'années, on lui a permis d'intervenir pour dire quelles avaient été les conséquences. La victim impact statement, la déclaration de la victime de ce qui s'était passé. Dans notre tradition continentale, c'est complètement différent. La victime, elle est d'emblée présente dans le processus judiciaire. C'est une immense différence. Et nous, notre souci, et pour répondre plus précisément à votre question, les Américains statuent sur des faits en allouant une somme d'argent. Nous, on s'occupe des victimes en tant que personnes. En tant que personne. Ça, c'est très important. Et alors, on y arrive plus ou moins bien, parce que les victimes sont plus ou moins atteintes. Plus exactement, elles se sont plus ou moins reconstruites au cours de leur existence. Et on les prend comme elles sont pour essayer de les accompagner. Donc il y a une attention à la personne dans nos systèmes, d'ailleurs continentaux et notamment français, qui n'existe pas du tout dans le droit américain.
Est-ce qu'il y a une particularité au fait d'avoir été agressé dans le cadre d'une congrégation religieuse ?
Absolument, parce que c'est à mi-chemin entre l'inceste et le viol, c'est-à-dire que l'enfant est bouleversé, perturbé parce que celui qui devait lui enseigner le bien, lui apporter le salut, sème la mort en lui et une mort qu'il ne comprend pas. Très souvent, les enfants agressés, c'est leur premier contact avec la sexualité. Et c'est un contact qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, beaucoup disent, je ne sais pas ce qu'ils me voulaient, j'ai eu peur qu'ils me tuent. Et donc, c'est le traumatisme, c'est un traumatisme, encore une fois, d'autant plus épouvantable qu'il est commis par une autorité absolue, qui se pose comme une autorité aussi pour la famille. Très souvent, les prêtres sont invités à la table familiale, sont charismatiques, sont très proches de la famille. Et donc, dire du mal du père untel dans les années 60, 70, c'est impensable, c'est indicible.
Mais est-ce qu'il y avait donc autant d'enfants en relation avec les congrégations que les prêtres diocésains? C'est essentiellement par le biais de l'enseignement, les congrégations, non?
Pas uniquement dans l'enseignement, il y a aussi dans les récollections, les retraites,
oui.
Aussi dans les colonies de vacances et les loisirs, et puis enfin dans le cadre familial. Donc il n'y a pas que les congrégations enseignantes. Mais cette dimension de l'autorité, quoi, du sacré qui devient infernal, ça perturbe durablement un enfant et puis ensuite l'adulte qui va devenir. Et l'image, si vous voulez, l'image pour comprendre la gravité de... Et ce que disent d'ailleurs très bien les victimes, c'est que elles entament leur vie d'adulte avec un enfant mort en eux.
Ces victimes parlent aisément ou il faut leur délier la parole?
Alors ça dépend. Certaines avaient déjà écrit, la plupart quand même n'ont pas parlé. Et dans beaucoup de dossiers qu'on a, elles n'ont toujours pas parlé à leurs conjoints, par exemple, ou à leurs enfants.
L'anonymat est impossible.
L'anonymat.
On ne peut pas dire j'ai été victime et je veux rester anonyme.
Ah ben si, bien sûr.
Si.
Ah ben sûr. On a aussi des victimes.
Vous interrogez des gens dont vous ignorez le nom, le prénom?
Ah, ça peut arriver, oui. On reçoit des... Alors, on ne les interroge pas, mais par exemple, si vous voulez, il y a beaucoup de... Et on aurait tort de croire que c'est un problème des abus sexuels de l'Église et de ses publics, des gens, des fidèles. Non, c'est aussi un problème intra-ecclésial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes abusées étant enfants qui, ensuite, pour se soigner, pour se protéger, rejoignent l'Église. Donc, on reçoit des témoignages, on en a reçu pas beaucoup, mais disons peut-être une dizaine, de témoignages nous disant, voilà, je veux compter dans ces 240 000, je veux que mon histoire soit entendue et lue par quelqu'un, et je vous demande de détruire ce mail immédiatement après l'avoir lu. Alors, ce qu'on fait, bien sûr, donc il ne reste aucune trace, si ce n'est de dire, une personne nous déjà contactés. Il y a beaucoup de religieuses aussi qui, quoi, beaucoup, ça arrive, qui disent « je ne veux pas faire de mal à l'Église, mais je veux que ça soit su ». Donc, je vous le dis, une fois pour toutes, je ne demande rien, je suis anonyme, je suis religieuse quelque part dans le monde d'ailleurs, mais je veux que cela soit dit pour moi et pour l'Église.
Les médias sont pas mal intéressés à la question. Est-ce que ça vous paraît fidèle, la manière dont ils ont restitué leur vision de ce phénomène
Alors, des abus sexuels ? Je suis frappé de ce que, dans la société française, à la SIAZ, à laquelle j'appartenais, on avait très peur de que ce drame épouvantable des abus sexuels soit utilisé par les anticléricaux. C'est pas du tout ce qu'on a vu. On a vu au contraire une société française dont toutes ses composantes, et d'ailleurs toutes ses composantes qui étaient représentées dans la CIAS et qui sont représentées dans la CRR. Hein. Il n'y a pas du tout... je ne connais pas la conviction des gens qui sont membres et on n'en parle jamais, comme on ne parle jamais de pardon. Mais il y a une grande attention de la part des médias français sur nos travaux, parce que ça montre que les abus sexuels en général et les abus sexuels dans l'Église touchent, affectent beaucoup et très profondément la société française, comme les autres sociétés d'ailleurs.
Si le travail de justice restaurative ou restauratrice est pionnier, comme vous l'avez indiqué, Antoine Garapon, il y a une autre commission, celle qui est chargée de l'inceste, la CIVISE.
C'est ça.
Qui, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, elle n'est pas, on s'est déjà fait la réflexion sur cette antenne, dont on a trouvé que les travaux n'étaient pas extrêmement médiatisés.
Alors, je ne sais pas si...
Est-ce qu'elle vous a consulté, par exemple ?
Ah ben oui, on est assez proche d'eux. Ouais. On est assez proche d'eux. Puis d'abord, c'est Édouard Durand est un juge comme moi, juge des enfants. Et donc, je ne sais pas si elle est extrêmement médiatisée, mais ce que je sais, c'est que partout où il se déplace en France, ils remplissent des salles de plusieurs centaines de personnes avec une émotion intense. Ce qui montre bien, entre parenthèses, la prévalence des violences sexuelles commises sur les enfants. Et je crois qu'ils font un travail formidable. Alors après c'est un peu le même problème que MeToo aussi, d'ailleurs, dans un autre genre. La grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Qu'est-ce qu'on fait le jour d'après ? Et je crois que là, ce que nous faisons bien imparfaitement, mais le domaine dans lequel on cherche à avancer, c'est précisément proposer une issue de l'ordre de la justice restaurative et pas de la justice étatique, une issue pour cette émotion, cette attention très grande de nos sociétés, de la société française, sur les violences sexuelles.
L'enfant n'est pas assez protégé.
Les adultes sont pas assez informés. Les adultes n'ont pas une conscience suffisante de l'extraordinaire fragilité. Il y a une victime qui nous a dit une phrase qui m'est restée d'ailleurs dans la tête. Elle a dit, elle a été abusée une après-midi alors qu'elle avait 9 ans. Et on l'a entendu qu'elle en avait 43. Et elle a dit, une après-midi et le reste de ma vie. Une après-midi où il s'est passé et cette disproportion monstrueuse entre l'auteur qui parfois lui-même a été abusé et la destruction d'une vie, elle est considérable. Et je crois que les parents, les adultes, tout le monde doit prendre conscience de l'incroyable fragilité. La sexualité est un mal invisible. C'est un mal, à la différence des coups et des mauvais traitements en France, il ne se voit pas. On constate que tout d'un coup, les résultats scolaires s'effondrent, l'enfant devient taciturne, isolé, il joue plus, il a plus de copains, et donc je crois que c'est une pour nous tous et pour l'avenir, il faut absolument qu'il y ait une information, une prise de conscience de la prévalence et de la destructivité des violences sexuelles.
Quel regard portez-vous sur la manière dont les évêques ont accueilli les divers travaux justement issus de la SIAZ et votre bilan?
Alors, je pense que pour les évêques, ça a été, c'est terrible ce qui leur arrive et la prise de conscience. Et ils ont offert une résistance qui est compréhensible vu le contraire même de leur fonction. Et je crois qu'Éric de Moulin-Beaufort a réussi, c'est ce qui est formidable, à rechanger totalement d'attitude en créant l'INIR. Aujourd'hui, l'Église est dans une autre phase, me semble-t-il, qui est moins une phase de... Elle est dans la compréhension profonde, en profondeur de ce qui se passe. Faire de l'Église une maison sûre, ben oui, bien sûr, mais ça c'est vrai de tous les établissements, qu'ils soient du public. Mais comprendre la signification profonde de ces abus sexuels et la gestion catastrophique qui a été faite par l'Église dans ces années-là, jusqu'aux années 2000-2010, où il y avait une très grande résistance, ça me semble être un enjeu, et l'enjeu auquel elle s'attaque depuis quelques années en créant les commissions.
Et on a vu des évêques aussi impliqués directement.
Oui, bien sûr, mais
donc ça.
Mais bien sûr, mais c'est je ferai une distinction entre les personnes impliquées et la réaction de l'Église, qui n'est pas une institution comme les autres. C'est-à-dire que dans toutes les institutions, dans toutes les familles, malheureusement, il y a des pervers et des gens qui rentrent dans la vie religieuse parce que ils savent qu'ils vont avoir accès à des enfants, accès à une autorité qui les protège et dont ils vont qu'ils vont pervertir. L'institution doit trouver les bonnes réponses et doit se remettre en cause pour en trouver les causes profondes. Alors ça, c'est pas le rôle de nos commissions. On voit beaucoup de choses, on comprend un petit peu des choses qui se passent. On est
Vous avez des choses à recommander ?
Pas encore pour l'instant, mais ça va être les travaux auxquels on va s'atteler dans les mois à venir.
Ça devra déboucher sur des recommandations propres de la CRR ?
Pas des recommandations, des rapports analytiques. C'est-à-dire que quand on descend dans le détail d'une affaire, de l'horreur de cette affaire, on va réfléchir sur la manipulation du sacré. Parce que le sacré contribue paradoxalement à la violence. Ça mérite une réflexion. Il y a un problème de gouvernance.
Le sacré détourné ou le sacré en soi ?
Je disais ça dans un chapitre d'une église, d'un couvent cistercien. Et quand j'ai dit il y a une perversion du sacré, le père abbé m'a répondu, le sacré n'est pas chrétien. C'est la sainteté qui est chrétienne. J'ai pris ça, cette déclaration, et avec une détermination, une assurance qui était voilà. Alors, je crois que cette question, elle doit être. Alors, ça, c'est pas du tout notre rôle, mais on pourra apporter quelques éléments de réflexion.
Et bien, justement, j'espère qu'on aura l'occasion, justement, d'en reparler, Antoine Garapon, donc de ce regard analytique que vous porterez sur la situation, en écho, justement, à celui que la CRR, la Commission Reconnaissance et Réparation, a pu fournir depuis sa création. Je rappelle que vous êtes magistrat, président de cette commission, et aussi essayiste et homme de radio, rappelons-le, sur France Culture. Merci d'avoir été des nôtres.